Tout de suite, retrouvez C'est si bon, la nouvelle émission gourmande de Radio MDM en partenariat avec la Villa Mirasol, 2 boulevard Ferdinand de Candeau à Mont-de-Marsan.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout. C'est tellement, tellement bon.
Bienvenue à la Villa Mirasol, où nous allons prendre le temps de découvrir tout au long de cette année des producteurs, des artisans, des agriculteurs, des éleveurs qui s'affichent ou pas à la carte de cette maison d'exception.
De la tourtière à la truite, du fromage à l'entrecôte, en compagnie du chef Armando Noguera, nous explorerons le terroir landais qui regorge de surprises gustatives.
Nous nous intéresserons aussi, dans ce magazine, au concept de slow food.
Au début des années 80, un groupe de gourmets piémontais mené par Carlo Petrini porte un nouveau regard sur l'alimentation, l'agriculture et la gastronomie.
En 1986, ce mouvement devient protestataire et militant en réaction à l'implantation d'un McDo au cœur de la Rome historique. Il choisit de se nommer Slow Food par opposition à l'invasion de la malbouffe et du fast-food.
Marie Fischer, 27 ans, d'origine lorraine et fromagère à la ferme Bacotte de Saint-Sevé depuis 2015. La jeune femme a traversé la France pour rejoindre les contrées chalossaises après avoir rencontré son associé Clément Baillet au Salon de l'agriculture de Paris. Une passion partagée de l'élevage des races anciennes et menacée les a réunis, la chèvre de Lorraine et celle des Pyrénées. Marie a fait ses classes dans une exploitation vosgienne où elle décroche un BTS en alternance, puis en Bourgogne où elle évoluera des fonctions d'ouvrière agricole à celles de chef d'exploitation. De l'élevage des chèvres à la production de fromage, il n'y a qu'un pas que Marie a souhaité franchir au centre de formation agricole du Pradel à Aubenas, où elle s'initie à la transformation fromagère pour la production de picodon en appellation contrôlée. À la ferme de Bacotte, elle produit désormais des fromages de chèvre frais ou affinés, crottins et bûches cendrées, aux arômes fleuris de la chalosse. De quoi faire le bonheur des clients de la Villa Mirasol et des gourmets landais.
Bonjour Marie Fischer.
Bonjour.
Comment es-tu arrivée à l'agriculture, Marie ?
Eh bien, un peu par hasard, parce que mon père avait toujours rêvé d'être agriculteur et c'était une génération où, quand les gens étaient un peu intellectuels, on les envoyait faire des études, donc il n'avait jamais pu le faire. Et moi, j'ai fait ça un peu par hasard parce qu'on avait toujours eu des animaux et j'aimais bien ça. Et du coup, après mon bac S, j'ai enchaîné sur un BTS agricole. Et ça m'a bien plu parce qu'il y a un côté créatif, en tout cas dans la vente directe, il y a un côté créatif qui est très intéressant et qui permet de faire plein de choses différentes dans la même journée, quoi.
On parle souvent de passion quand on rencontre les producteurs à l'occasion de cette émission. C'est un terme que l'on peut employer avec toi, Marie ?
Oui, carrément. Carrément, parce qu'il y a vraiment de tout dans ce métier. Et du coup, on est non-stop sur plein d'ateliers différents, plein de compétences différentes. Et après, c'est un métier qui est tellement prenant. Je pense que si on n'est pas passionné, c'est difficile de tenir sur la longueur.
Et alors, comment on se passionne pour la chèvre ?
Bah, c'est un drôle d'animal qui est quand même assez attachant, qui a un caractère un peu belliqueux, effronté, donc qui me colle bien. Je pense que j'aurais pas fait des brebis, par exemple, parce que c'est beaucoup plus plan-plan. C'est vachement sympa, une chèvre, c'est vachement attachant. Et après, voilà, une fois qu'on est sur un truc et qu'on continue, que ça nous plaît, on y reste, quoi.
Parce qu'il y a la particularité que vous avez à Bacotte, c'est de travailler avec des races anciennes.
Alors les races anciennes, pour moi, ça fait du sens parce que ça correspond à une philosophie de vie aussi. Si on avait choisi des races, on va dire, un peu plus productives, notre système de fabrication et de vie, il aurait été complètement différent. Là, on a choisi ces animaux parce qu'ils s'adaptent à la vie dehors, parce qu'ils sont rustiques, parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils sont beaux aussi, qu'ils ont plein de couleurs différentes. Ça, je trouve que c'est chouette. qu'ils ont des grosses cornes. C'est des animaux qu'on voit pas partout, quoi. Et ça a du sens, philosophiquement, ça a du sens d'avoir des animaux de race ancienne.
Ça s'inscrit dans la logique de l'agriculture poétique aussi.
Exactement, oui, tout à fait. Donc l'agriculture poétique, c'est vraiment dire que cette façon de produire actuelle de l'agriculture ne va pas du tout. Et que l'agriculture biologique est en train de devenir un peu du greenwashing, donc ça ne nous va pas non plus. Donc l'agriculture poétique, c'est vraiment à part, c'est dire nous on fait un truc un peu comme une blague, mais finalement c'est pas si fou que ça.
T'es venu t'inscrire un petit peu dans l'histoire de la ferme de Bacotte, après avoir rencontré Clément. Ça s'est fait tout naturellement, cette rencontre et le fait de te mettre dans cette aventure.
Ben, c'était un peu... Oui, c'était une rencontre un peu drôle. C'était un peu le hasard et c'était un peu... ma vie à ce moment-là a fait que je suis arrivée là. C'était rigolo. Et après, on s'est bien correspondu et on est assez complémentaires, je pense. Donc, c'est une chance. Ou des fois, c'est juste avoir la folie d'aller tenter un truc et puis ça roule, quoi. Donc là, c'était un coup de bol.
T'as eu le sentiment de coup de folie un peu sur ça?
Oui, parce que moi, je suis partie, j'avais un boulot en Bourgogne et puis bon, j'avais quitté ce boulot et Clément est venu me voir en vacances. On est allé voir une fromagerie et je lui ai dit, bah, tiens, est-ce qu'on ferait pas un truc? Parce que moi, j'ai des compétences, je sais pas trop ce que je vais faire de ma peau. Et du coup, je suis arrivée avec ma valise, mon chien et une chèvre. Et puis voilà, quoi, ça s'est passé comme ça. C'était un peu à l'arrache.
Et t'es venue perfectionner l'atelier fromagerie qui avait été un petit peu ébauché à la ferme Bacotte.
Oui. Oui, voilà, parce que Clément commençait à travailler avec son frère. Donc du coup, ils travaillaient tous les deux. Et donc moi, je suis arrivée. Et en fait, au moment où je suis arrivée, on a acheté la fromagerie. Donc ça, c'est devenu un peu plus pratique déjà. Et professionnel aussi, quoi.
Ouais. Tu as déjà évoqué un petit peu l'aventure de l'agriculture poétique. Tu peux nous faire partager le regard que tu as sur l'agriculture en général? Parce que j'imagine que derrière ça, il y a plein de choses que vous véhiculez avec vous. Ça vient s'insérer comment dans le cadre général?
Eh ben, je pense que l'agriculture en général, en ce moment, elle est quand même un peu déconnante. Que les animaux, on s'en sert comme des machines, et les humains qui travaillent dans ces fermes, elles sont plus si heureux que ça non plus, parce que c'est complètement déshumanisé. Et bon, ça correspond avec plein de choses, c'est de la consommation, donc la production, la grande échelle, la quantité, on ne regarde pas la qualité. Après, voilà, c'est une vraie philosophie de vie, j'ai pas envie de taper encore sur le capitalisme, mais pour moi c'est un gros problème. Et cette façon de travailler et de le rapport avec les animaux, pour moi, il faut qu'il soit quand même harmonieux avec la nature, avec les animaux. Il faut qu'il soit vraiment harmonieux, il faut qu'on se sente bien. On vit tous ensemble. Donc si les animaux, c'est juste des outils et qu'on appuie sur des boutons, ça perd de son sens, quoi. C'est plus... je vois pas l'intérêt, en fait. S'il y a plus de relationnel avec les animaux avec qui on vit, je trouve que ça sert à rien. Autant faire autre chose. Un travail du bureau, c'est le même truc, quoi.
Le futur, alors, comment tu l'envisages à travers ce que vous avez initié avec Clément autour de ça? Et de façon plus générale, est-ce que tu as un, je sais pas, d'optimisme, pessimiste? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à inverser?
Alors, ça peut s'inverser. J'ai pas toujours l'impression que ce soit le cas, parce que les lois, elles sont faites par des gens, par des pressions de lobby quand même, hein, et du coup, les lois, elles s'orientent pas toujours bien. Si on a la chance d'avoir assez de force de parole et de se réunir entre gens qui travaillent comme ça, on aura peut-être... je sais pas, des dérogations, on nous laissera un peu tranquille et on pourra continuer. Après, je pense qu'il y a quand même des gens qui commencent à réfléchir à la façon de vivre et de manger, et qui a plus en plus de demandes de transparence, d'éthique, d'échange avec les gens qui produisent. Donc ça peut tourner bien, quoi. Mais il faut s'y mettre à plusieurs. Après, par exemple, nous, on a un magasin à Saint-Sevé et on voit quand même que les gens ont envie de ça, et ça marche quand on se moque pas d'eux et quand on les respecte et qu'on leur ment pas, quoi. Voilà.
Cette volonté, elle s'illustre aussi à travers la reconnaissance de grands chefs, parce que vous avez été labellisé récemment par le Collège culinaire de France. Michel Guérard a été un des premiers clients, un des premiers restaurateurs à faire confiance à la ferme Bacotte. Est-ce que ça vous encourage aussi à continuer dans, avec ces valeurs ?
Oui, carrément, parce que pour moi, donc nous, on peut diffuser nos idées et planter des graines dans les têtes à petite échelle avec des gens qui vont consommer ça dans la vie de tous les jours.
Attends, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est le Collège culinaire de France ?
Ouais. Alors le Collège culinaire de France, c'est un, on va dire, c'est un réseau qui a été monté par 13 chefs gastronomiques, dont font partie par exemple Alain Ducasse. À la base, c'était monté par Joël Robuchon. Et le but, c'était de favoriser la qualité et d'encourager des gens, de mettre des producteurs et des restaurateurs en relation, quoi. Et de créer des échanges, même que des gens, que des producteurs fassent des choses pour des restaurateurs en particulier. Enfin, vraiment qu'il y ait un lien entre ces gens et que les restaurants gastronomiques sachent valoriser aussi le travail de la qualité, quoi. Voilà.
Et donc le jour où vous avez reçu votre petite plaque, ça a été vécu comment ?
Bah, c'est quand même rigolo. C'est rigolo de rentrer dans ce réseau. C'est plutôt chouette parce que les gens qui y sont sont quand même porteurs de belles valeurs, je pense. Et un militantisme intéressant et qui tape à un niveau... c'est des gens qui ont assez de pouvoir, quoi. Qui ont la diffusion de la parole, elle est à un autre niveau que ce que nous, on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc c'est super d'être sur tous ces niveaux. Et c'est la preuve que bien manger, bah c'est un droit pour tout le monde, quoi.
Il y a quelques semaines, vous étiez en Italie pour un week-end autour du slow food. Donc comme cette émission tourne autour aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez été faire en Italie ?
Alors on a été déjà bringués un peu avec nos copains fromagers, ça c'était rigolo, et c'est surtout en fait c'était les rencontres, on s'appelle le Cheese, ça se passe tous les 2 ans à Bra, donc Bra c'est la ville du slow food, c'est là qu'il y a tous les événements slow food se passent à Bra, et du coup là c'était autour du lait cru en Europe, donc il y avait des gens de toute l'Europe avec des petits stands qui venaient expliquer ce qu'ils faisaient. Il y avait pas mal de représentations de races locales de toute l'Europe aussi, donc ça c'était chouette. Et on a échangé avec pas mal d'Italiens, en tout cas sur les productions fermières au lait cru, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est dit autour du lait cru ?
Ben, le lait cru en Europe c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui... On est toujours un peu en lutte aussi pour le conserver, parce qu'on a la chance de faire des fromages bons en Europe, en Italie, en France particulièrement, mais dans d'autres pays aussi. Et le lait pasteurisé, à un moment, a failli prendre le pas, et le lait cru a failli disparaître. L'Europe a voulu faire passer cette loi, et finalement, grâce à des gens qui se sont mobilisés et qui ont dit non, c'est un patrimoine et c'est des choses à conserver, le lait cru est resté, quoi. Donc c'était intéressant de discuter avec ces gens aussi pour savoir ce qui se passait un peu et rester en lien avec des gens qui font la même chose que nous à travers l'Europe, quoi.
Et c'est un petit peu préparer aussi l'avenir avec tous ces échanges-là, c'est se projeter un peu. Qu'est-ce que tu te projettes, Marie, sur cette aventure-là, à titre personnel et de façon plus générale ?
C'est-à-dire ?
Quand tu as une projection sur les années à venir, la ferme de Bacotte, dans ton activité, comment tu vois l'évolution de la chose
Alors nous, à la ferme de Bacotte, on travaille qu'avec du lait cru et en plus, on travaille avec des ferments indigènes. Ça veut dire qu'on utilise que... C'est comme sur le vin nature, sur la peau du raisin et sur la rafle du raisin, il y a des ferments qui sont issus du terroir. Et bien en chèvre, en fromage en tout cas, c'est la même chose. Donc sur le pis des chèvres, dans l'air et sur les mains du fromager aussi, il y a des ferments qui sont ceux de la ferme. Et donc nous, on valorise ceux-là. Et je pense que c'est vachement important parce que dans une espèce d'uniformisation du goût, on doit avoir de tout le temps. Ben ça, c'est une typicité vachement chouette. Et je pense que si ça tourne bien, les gens vont chercher ça de plus en plus. Et on a une histoire à raconter quand on mange un fromage local. Donc c'est, je pense que ça, l'histoire, ça les intéresse aussi, les gens. Donc c'est un bon point.
Est-ce que tu penses que ça va bien tourner ?
Ben on espère, on travaille tous les jours pour ça, donc ça serait quand même mieux. Oui, il y a des chances que ça tourne bien quand même. En tout cas, nous, on fait ce qu'on fait avec passion et on est sûr de nous déjà, donc c'est bien. On plante des graines petit à petit, à force d'être un peu partout et d'expliquer aux gens ce qu'on fait. Donc je pense que dans les Landes, en tout cas, il y a des choses à faire et je pense que ça prend, donc c'est chouette.
De façon un petit peu plus matérielle, Marie, mm-hmm. Est-ce que vous vivez bien dans votre activité ?
Alors, est-ce qu'on vit bien de notre activité ? Donc, on est quand même dans les premières années. Donc, on s'est tout autofinancé. Donc, on a fait pas mal de choses de notre poche. Donc, évidemment, les premières années, c'est pas évident. Mais là, ça va de mieux en mieux. Après, nous, on a deux ateliers. En fait, on a aussi des ports noirs en plein air. Donc, on est deux à vivre sur cette ferme. Et après, on a des besoins qui correspondent à ce qu'on a envie de vivre, quoi. Aucun de nous vit dans un palace. On vit dans une petite maison chacun. Et puis, ça nous suffit. Donc, oui, on vit comme il faut. Et en tout cas, on mange bien. Donc, déjà, ça, c'est important. On mange bien, on rigole bien. Donc, c'est l'essentiel.
Parmi tous ces produits que vous appliquez à fabriquer au quotidien, c'est lequel ton préféré ?
Alors moi j'adore le crémeux, hein, celui qui coule bien partout. Là, quand je suis au marché et que j'ai des crémeux, je dis aux gens « Mais mangez celui-là, vous voyez pas comme il est beau !» Parce qu'il a un petit goût de noisette, il coule, il est tout doux. Bon, c'est celui-là mon préf, j'en mange un par jour quand j'en ai des bons. À la fromagerie, je gobe ça, c'est ça mon préféré.
J'allais te dire, il y a un moment particulier, non, c'est sur l'envie parfois.
Eh bien, souvent, ils sont le mieux au printemps ou à l'automne, comme ça, parce que la température extérieure, elle est comme il faut, il fait humide. Donc du coup, les fromages, ils travaillent à la bonne température, tout doucement. Ils crèment comme il faut, ils sèchent pas, ils sont parfaits. Et en plus, le lait des chèvres, à ce moment, est vachement plus gras et protéiné. Du coup, c'est des pépites.
Elle a l'œil qui brille. Et où est-ce qu'on peut se procurer ces crémeux, Marie, par exemple ?
Eh bien, on est tous les samedis matins au marché de Saint-Sevé, bon, jusqu'au mois de novembre, parce qu'il y a une petite pause en hiver pour les chèvres. Sinon, au magasin à la Tout-Fermier à Saint-Sevé du mardi au samedi. Et après, on a tout un réseau de diffusion dans les crèmeries sur la côte.
Et les restaurants, on peut vous trouver, Marie ? On peut retrouver les produits de la ferme de Bacotte ?
Alors, la ferme de Bacotte, elle fournit des chaudises à Saint-Sevé. L'Art des Mets aussi à Saint-Sevé et après occasionnellement Michel Guérard auprès de Génie.
Il y a une petite pause en hiver. Ça veut dire que vous suivez le rythme des saisons ?
On suit le rythme des saisons et les chevriers sont très feignants. Leur passion, c'est d'avoir des vacances en hiver. Donc les chèvres se tarissent à l'hiver pour se reposer et elles font leurs petits au printemps, exactement comme les chevreuils ou les cerfs. Donc nous, on profite de ça pour prendre une pause aussi.
Merci Marie Fischer.
Merci Jeannot et Margot.
Bonjour Armando.
Bonjour Radio MDM.
Depuis les cuisines de la Villa Mira sur la Mont de Marsan, alors aujourd'hui non pas une mais deux recettes autour du chèvre, Armando.
Exactement, deux recettes dont la première c'est une spécialité un petit peu de Mirasol, c'est la croquette. On va faire une croquette de chèvre. C'est l'une des ventes numéro 1 de musique Ecopass. Donc pour faire une petite croquette de chèvre, vous prenez une bûchette toute simple de chèvre, vous la coupez en petits morceaux, environ 20 grammes. Après vous formez entre vos deux mains une petite boule. Après cette petite boule, vous pouvez la sonner avec du sel et du piment d'Espelette. Et on peut rajouter un petit peu de fantaisie, on va y mettre du miel, un petit peu de miel. Et après on va passer dans une panure. Alors pour faire une bonne panure, on utilise de la farine, du blanc d'œuf et de la chapelure. Et on trempe la petite boule de chèvre dans le blanc d'œuf, la farine et la chapelure deux fois. Après, on réserve au frais pendant une petite heure, histoire que ça prenne bien autour de ce chèvre-là. Et après, vous pouvez le frire à la friteuse à 180 degrés pendant 3 minutes.
Et ça, donc, sur les musicaux passe de dimanche soir, la Mirasol,
ouais, ça marche du feu de Dieu. Ouais. Après, on peut le décliner. Vous pouvez rajouter, dans cette boulette, vous pouvez rajouter du jambon de pays, on peut faire aussi de l'olive, des herbes de Provence. Le chèvre est une particularité, on peut le cuisiner quasiment avec tout, quoi. Mm-hmm. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne recette pour l'apéritif. Après, j'ai une deuxième recette qui peut se... C'est un peu plus fromage travaillé pour avant le dessert, quoi. On se dit, on a encore une petite faim. Il nous reste dans le frigo un petit peu de pâte à filo. Donc la pâte à filo, c'est une pâte... On va en faire un feuilletage. On va faire un millefeuille de chèvre et de pâte à filo. Donc ce qu'on peut faire, on prend la pâte à filo, on y rajoute du beurre clarifié, deux feuilles de pâte à filo. Vous coupez des rectangles comme il faut, la taille que vous le souhaitez, la forme forme que vous le souhaitez. Vous les cuisez dans votre four à 180 degrés pendant 4-5 minutes entre deux plaques de cuisson. Ça va, vous le sortez au bout de 5 minutes. Vous enlevez ça du four et ça va faire déjà la base de feuilletage. C'est un feuilletage très léger. Et après pour le chèvre vous attrapez la bûchette, vous enlevez ou le chèvre frais, vous le mettez au batteur. Vous allez le foisonner et puis vous pouvez l'assaisonner avec comme vous voulez. Là on peut faire avec de la tomate confite en boîte, on peut rajouter des câpres, plein de choses. Et l'objectif c'est que vous prenez une assiette à dessert, vous mettez un petit rectangle de pâte à filo, une crème de chèvre avec l'assaisonnement que vous souhaitez, et vous faites ça sur trois étages et ça vous fait un petit pré-dessert au fromage très sympathique pour épater vos amis lors d'un repas.
Merci Armando de toutes ces recettes. Chef Armando, il a une petite préférence sur le chèvre?
Ben moi j'aime bien la première recette,
ouais.
Mais elle est un peu plus, vu qu'elle est c'est dans une friteuse, c'est un peu plus calorique, mais la dernière recette est bien aussi quoi. Mais le chèvre, nous ici on le travaille, en ce moment là justement avec un dessert avec de la base de pommes quoi. On a du gruyère de chèvre qu'on a mélangé avec du basilic, pomme verte et la pomme gala. On a un dessert à base de ça et c'est l'un des desserts qui plaît beaucoup en fait.
Merci Armando.
Mais de rien.
On a l'eau à la bouche, ça y est quoi.
Mais très bien. Mais je vous souhaite un bon appétit.
À très bientôt Armando.
Merci.
Vous venez d'écouter C'est si bon, la nouvelle émission gourmande de Radio MDM en partenariat avec la Villa Mirasol de rue Boulevard Ferdinand de Candeau à Mont-de-Marsan, une semaine sur deux le mardi à 17h30 et le samedi à 13h30 sur MDM.
C'est si bon de goûter dans ses yeux un espoir merveilleux. C'est tellement, tellement bon.